On va lire ce soir le chapitre 4 et le début du chapitre 5. Ce soir, c'est un long discours que fait Salomon. Son discours étant trop coupé de quelques prises de parole de la Sulamite. On se rappelle qu'on avait terminé le chapitre 3 sur un élément très important. C'était le cortège royal avec la Sulamite qui était placée en position de reine, en tout cas en position première, parce qu'on avait vu ce détail qui donne la clé au chapitre 3, où le roi Salomon est sorti avec sa couronne des jours de fiançailles. Donc en fait, la Sulamite a été fiancée de force au roi Salomon. C'est la situation. Et on sait que dans la culture juive, être fiancé ou marié, c'est quasiment pareil. En fait, même dans le langage, c'est très compliqué de savoir s'il est parlé vraiment de fiançailles ou du jour de mariage. En l'occurrence, on restera sur la dimension de fiançailles parce qu'il n'y a jamais de rapport réel, physique, qui se fait entre Salomon et la Sulamite. Alors là, on est au chapitre 4. Et là, Salomon, alors les hommes, vous pourrez prendre des notes ce soir, vous allez trouver plein d'arguments pour trouver des belles images poétiques à dire à vos épouses. On est parti ? Cantique des Cantiques, chapitre 4. Salomon prend la parole et dit « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendu au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ah, tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. Mille boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. » Au verset 6, c'est la Sulamite qui pousse un soupir et qui dit « Avant que le jour se rafraîchisse, et que les jours fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. » Salomon continue. Ah, que tu es belle, mon ami! Il n'y a point de défaut en toi. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Mana, du sommet de Sénir et de l'Hernon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Ah, tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que les aromates. Tes lèvres disent-ils le miel, ma fiancée? Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec des fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et la cinnamone, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Une fontaine, des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. La Sulamite prend la parole, et on dira que c'est le verset numéro 17. que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Chapitre 5. Salomon reprend la parole. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. La Sulamite reprend la parole. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Et nous arrêterons notre lecture ici ce soir. Vous avez tout compris ?
Presque.
Presque. Ah, ça, c'est bien d'avoir relevé ça. Alors, on va vraiment faire, on va faire comme d'habitude, on va relire et puis on va décoder la signification de chacune des expressions que Salomon utilise et puis après on tirera quelques leçons. Effectivement, c'est un discours très enflammé de Salomon. Et vous allez voir qu'il va même crescendo. On ne se rend pas compte à la première lecture, mais vous allez voir que dans les détails et dans les illustrations qu'il prend, il est de plus en plus excité, échauffé. Il est dans son rôle de séducteur, on se le rappelle. Et puis, il y a quelques interventions de la Sulamite. Le roi est littéralement émerveillé par la beauté de cette jeune fille. Il ne tarit pas d'éloges et sur son physique, il va mettre en évidence, il va exalter sept parties de son corps. Sept, ce n'est pas non plus un chiffre pris au hasard. On sait que dans la symbolique juive, sept, c'est le chiffre de la perfection. Alors voilà qu'il commence par parler de ses yeux. Il compare les yeux à des colombes. Vous le savez, ça évoque l'innocence, la douceur, la simplicité, la pureté. Après, il va parler de ses cheveux. En fait, il est en train de dire que ses cheveux sont ondulés comme un troupeau de chèvres. Quand on voit un troupeau de chèvres de loin, bah c'est ondulé. Et qu'ils descendent sur les épaules comme sur les flancs des montagnes. Voilà ce qu'il veut exprimer. Quand il parle des dents de la jeune fille, eh ben en fait, il est en train de dire que ses dents sont blanches, comme des brebis qui viennent d'être tondues. Parce que quand vous retirez le lainage des moutons qui se sont salis par la nature, eh ben hop, quand on rase tout ça, ben ça fait tout blanc. Et donc, il est en train de dire, oh, tu es... Quand il parle des dents, là, elles sont blanches comme des brebis tondues. Et elles portent toutes des jumeaux. Ça veut dire que, en fait, elles sont toutes identiques, ces dents. Elles sont régulières, elles sont de même taille. C'est ça qu'il est en train de dire. Si une dent a sa jumelle et que chaque dent a sa jumelle, ça veut dire qu'elle a toutes ses dents et qu'elles sont bien régulières. Donc il est en train de dire qu'elle a une très belle dentition, bien harmonieuse. Et qu'elles sont... Pas besoin, pas besoin. Quand il parle des lèvres, il évoque le cramoisi. En fait, c'est une teinture rouge écarlate. Pas besoin de rouge à lèvres non plus. Quand il parle de sa joue, en fait, il est en train de dire que elle doit avoir des fossettes bien arrondies et bien lisses. Les grenades, c'est un fruit que vous pouvez facilement trouver en supermarché. C'est à peu près de la taille d'une pomme, mais c'est bien lisse, c'est bien arrondi, et une belle couleur rouge. Donc voilà les caractéristiques physiques qu'il est en train d'évoquer. Mais c'est pas fini, effectivement. Il parle là, au verset 1er, au verset 3, il dit que tout cet aspect du visage qu'il est en train de détailler, il dit que tout ça c'est beau derrière son voile. Pourquoi est-ce qu'il y a un voile? En fait, c'est un code vestimentaire de l'époque où pendant ces temps des noces, la jeune fille portait un voile sur son visage. Et pendant tout le temps des fiançailles, enfin de ce jour de fête, la femme était comme voilée, elle était voilée. Et c'était dans la chambre nuptiale, à la fin de journée, qui effectivement, ça pouvait être découvert ou pas. Il y a un monsieur qui s'est fait avoir un jour comme ça, il s'appelle Jacob. Il croyait s'être marié à Rachel, et puis catastrophe, c'est seulement le lendemain matin qu'il s'était aperçu que c'était sa sœur Léa. Ah, Parce qu'effectivement, pendant toute la journée, il y avait ce voile, et puis le soir, certainement dans la pénombre, peut-être que certains ne gardaient pas le voile, je ne sais pas, je n'ai pas forcément les détails de tout, mais c'était quelqu'un d'autre qui était dans le lit. Il avait déjà fait ce qu'il avait à faire pendant cette soirée d'amour. Donc effectivement, le voile que vous voyez là, ce n'est pas un voile qu'il portait constamment tout le temps de l'année, comme dans quelques pratiques de l'islam, mais c'est un code vestimentaire de l'époque qui se faisait comme ça. Au verset 4, il évoque le cou. Ton cou est comme une tour. Alors, il n'est pas en train d'évoquer la longueur du cou. Non, mais il est en train d'évoquer la force. Ton cou est ferme, il est droit comme une tour. Effectivement, et ça c'est important. Parce que en fait, la Sulamite n'a pas du tout la tête baissée, qui serait un signe d'humiliation, un signe de tristesse, peut-être même, allons jusqu'au bout du raisonnement, un signe d'allégeance, c'est-à-dire d'acceptation de la situation. Non, pas du tout. Le cou de la Sulamite montre sa position, sa posture. Et le cou de la Sulamite, elle est droite, elle est fière, elle a la tête debout, elle affronte la situation avec courage, avec fierté, avec détermination. Pourquoi est-ce qu'il est parlé là de la tour de David ? Parce que dans cette tour, il y avait des boucliers. En fait, chaque fois que David allait en guerre et qu'il remportait des victoires, eh ben il prenait les boucliers des soldats, les boucliers des héros, et il exposait, comme des trophées, tous ces boucliers dans cette tour. Et donc, il y avait une tour qui était réservée à toutes ces expositions de boucliers qui étaient des signes de victoire. Et donc, il dit, voilà, il compare un peu ces ornements à ces colliers que la jeune femme avait. Vous pourrez voir ce détail d'histoire en 2 Samuel chapitre 8 verset 7. Au verset 5, ce sera le dernier détail physique que Salomon aborde, c'est celui de ses deux seins. Ses deux seins sont comme deux fans. On pourrait dire, de quoi est-ce qu'il parle? En fait, il est en train de parler, il évoque la douceur de la peau de ces jeunes animaux. Et je ne sais pas si on est à peu près tous pareils, mais quand quelque chose, les jeunes animaux qui ont ce petit poil tout doux, on a envie de les caresser. Et c'est ce qu'il est en train d'évoquer. Quand il parle de ces deux seins qui sont comme des fans, il ne parle pas de la forme, il parle justement de cette attirance, de cette douceur qu'il a envie de caresser de ses mains. Et effectivement, on sent là que le désir de Salomon est de plus en plus pressant. Il ne se contente plus de dire que tes yeux sont doux, il est en train d'expliquer à cette jeune femme qu'il aurait bien envie de caresser de plus près son anatomie. Et puis on arrive au verset 6. Et là, au verset 6, effectivement, c'est la Sulamite qui intervient. Pourquoi est-ce qu'elle intervient ? Parce que, comme avant, on avait vu que la Sulamite, elle a son cœur qui est toujours porté vers son bien-aimé. Et dès qu'il y a quelque chose qui lui fait penser à son bien-aimé, hop, elle le dit. Et là, on pourrait presque dire que le pauvre Salomon a eu le malheur d'évoquer qu'effectivement, dans ses comparaisons, comme une jeune gazelle qui pèse au milieu des lys. Ah, les lys, la campagne. Et tout de suite, la Sulamite, elle part. Oh! Avant que le jour ne se rafraîchisse, que les ondes fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe, j'irai à la colline de l'encens. Voilà, elle, le seul fait de penser à la campagne et au lys, elle pense à son bien-aimé et elle se dit, ah! Et elle exprime non pas la probabilité qu'elle le fasse, mais son désir. Elle dit, j'aimerais tellement qu'à la fin de la journée, je puisse avoir cette liberté, moi aussi, de m'évader et de retrouver mon bien-aimé dans ces montagnes. Et c'est ce qu'elle évoque. Tout de suite, d'ailleurs, le roi David entend cela, il reprend son discours, mais vous allez vous apercevoir qu'à partir de maintenant, probablement déclenché par cette parole et par son excitation personnelle, mais vous allez vous apercevoir que les propos de Salomon, pardonnez-moi, sont de plus en plus entreprenants, il est de plus en plus impatient. Et au verset 8, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Viens avec moi ! Allons aux montagnes de Sénir, de Lernon, allons là-bas, allons au Liban. En fait, il est en train comme de l'inviter au voyage. Allez, viens avec moi. On va aller là-bas, on va aller là-bas. Mais il ne l'invite pas n'importe où. Pendant que elle venait justement de dire « Je vais aller à la montagne, sous-entendu là où se trouve mon bien-aimé », Salomon lui dit « Viens avec moi et moi je vais t'emmener sur d'autres montagnes. » Entre guillemets, il est en train de lui dire « Oublie ton bien-aimé, c'est bon. Moi je vais t'emmener ailleurs. Moi je vais t'emmener sur d'autres montagnes, des montagnes bien plus grandes, bien meilleures. » Alors qu'effectivement, c'est l'explication pour laquelle il est parlé des lions et des léopards. Alors qu'effectivement, le berger, lui, il fait paisser son troupeau près des montagnes qui sont sécurisées. Lui, le roi Salomon, est en train de dire à la Sulamite, « Je vais t'emmener vers les montagnes où il y a des lions, il y a des léopards, il y aura de l'aventure, il y aura quelque chose d'excitant à partir avec moi dans ces montagnes. Viens avec moi !» Sous-entendu, oublie ton berger et oublie ces montagnes, mais viens avec moi. Il est de plus en plus insistant parce que, vous voyez de quelle manière, à partir du verset 8, au verset 9, au verset 10, au verset 11, au verset 12, et je crois qu'un peu plus tard, il le rappelle encore. Oui, au chapitre 5, verset 1er. Salomon va faire pression sur elle. Parce que sur tous ces versets, du verset 8 au verset 12, plus le verset 15, il va insister en lui rappelant qu'elle est sa fiancée. Ma fiancée, ma fiancée, ma fiancée. Il est en train là de dire, oh, c'est fini là, tu es fiancée, je te le rappelle, sous-entendu, maintenant tu m'appartiens. Maintenant, oublie, c'est fait. Il est en train là de réclamer sa légitimité de fiancé vis-à-vis de sa fiancée. Et là, il fait pression. Il ne fait pas une parole sans rappeler à la Sulamite qu'elle est sa fiancée. Vous sentez la pression? Alors qu'elle, elle subit toutes ces situations-là. Au verset 9, où il est écrit « Tu m'as ravi le cœur », d'autres traduisent « Tu m'as mis hors de moi ». Tu m'as fait perdre la tête. Et on sent que les désirs du roi sont de plus en plus forts. On a presque l'impression que autant la résistance de la Sulamite est là et autant ses désirs sont échauffés, sont stimulés, sont intensifiés. À tel point qu'au verset 10, c'est amusant que Salomon lui-même dise à elle que ton amour vaut mieux que le vin et que tes parfums sont plus suaves, parce que c'est exactement ce que les jeunes filles, vous pourrez lire ça, c'était au chapitre 1er, verset 2, c'était exactement les propos que les jeunes filles du harem disaient à l'égard de Salomon. Et lui-même va reprendre ces mêmes compliments pour les attribuer à la Sulamite. Mais on se rappelle dans quel contexte très sensuel les jeunes filles du harem le disaient. Rappelez-vous. Parce que les paroles des jeunes filles du harem, c'était qu'il me baise des baisers de sa bouche. Il y avait tout de suite une érotisation du contexte. D'ailleurs, ça continue. Parce qu'au verset 11, il est dit « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Ils distillent le lait, symbole de douceur, de richesse, d'abondance. » Mais gardons ces versets à l'esprit. Il dit que le lait, le miel se trouvent sur ses lèvres, dans sa bouche, d'accord? Gardez ça à l'esprit, on va le réutiliser tout à l'heure. Au verset 12, Salomon continue d'exprimer son impatience. Et il compare sa fiancée à un jardin fermé. Il y a un double sens. Le premier sens, c'est celui qui existait déjà. Il y avait véritablement ce qu'on appelle des jardins privés. Ça a évité qu'il y ait des intrusions, c'était des voies protégées, mais ça veut dire aussi que ce jardin lui est inaccessible. Et cette pensée, elle est confirmée par les deux autres expressions où Salomon va dire qu'elle est une source fermée, qu'elle est une fontaine scellée. Alors, jardin fermé, source fermée, fontaine scellée. Ces trois expressions sont des expressions également très communes à l'époque pour parler d'une fille qui était vierge. C'est tout à l'honneur de la Sulamite, évidemment. Mais Salomon est en train de lui expliquer qu'elle est sa fiancée et que lui, il ne veut pas en rester là. Il veut pas en rester là. Qu'elle soit fermée, c'est une chose, mais qu'elle soit fermée à son égard, ça commence à l'agacer, franchement. Du verset 13 au verset 15, le roi continue. Et il reprend cette image du jardin et il la surenchérit. Parce que la pensée du jardin, il utilise alors, je ne sais pas si tout le monde a le même mot, si chacun peut regarder dans sa Bible, le verset 13. Moi, je vous ai lu ma traduction qui est « Tes jets forment un jardin ». Alors en fait, la notion de jet, effectivement, les jets, c'est des rejetons, des pousses. Je pense qu'en fait, là, le roi Salomon est en train de comparer les membres à des arbres. Il est en train de dire, voilà, il a déjà parlé de ses yeux, de ses joues, de ses lèvres. Et là, il dit, ah, tes membres, tes jets, sont comme des arbres qui poussent. Et en fait, quand il dit, tes jets forment un jardin, c'est plus exactement le terme d'un verger. En fait, il est en train de dire, tu n'es pas seulement un jardin, mais tu es un véritable verger. Et ce mot verger est de temps en temps traduit par le mot paradis. Et en fait, je crois qu'il y a un véritable jeu de mots où en fait, le Salomon est en train de... Voilà, quand je disais qu'il était en train de surenchérir, il est en train de dire, tu n'es pas seulement un jardin, tu es comme ce paradis, tu es comme ce jardin d'Éden, tu vois ? Ce verger où dans ce jardin d'Éden, il y avait tout. Il y avait le délice, il y avait le... D'ailleurs, Éden veut dire délice. Il y avait l'abondance, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait ce parfum, il y avait cet équilibre, il y avait ce bonheur. Et voilà ce qu'il est en train un peu de vouloir exprimer. Mais effectivement, il n'y a pas que le jardin. Il y a aussi une source d'eau vive qui coule au milieu de ce jardin. Comme en Éden d'ailleurs. Et puis on arrive au verset 16. Lève-toi, Aquilon, viens au temps. Qui sont Aquilon, qui sont au temps? Et bien en fait, ce sont des noms de vent. En France, on a aussi des noms, hein, le Mistral, la Tramontane. Ben voilà, c'est... Alors, que représente Aquilon? Que représente au temps? En fait, Aquilon, c'était un vent qui venait du nord et qui apportait la fraîcheur sur le pays. Autant, c'était plutôt le vent du sud et qui apportait plutôt un vent tiède. Pour avoir l'explication complète, il y avait aussi le vent qui venait de l'est et c'était un vent qui venait du désert. Et c'était un vent impétueux, sec, violent. Et puis, il y avait le vent qui venait d'ouest, qui venait de la mer et qui lui apportait au contraire beaucoup d'eau. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire là, le Salomon ? Il est en train de parler de deux vents. Le vent du nord, qui apporte du froid, vient à Aquilon. Et il parle du vent du sud, qui apporte au contraire cette tiédeur, cette chaleur agréable. Lève-toi, Aquilon, viens au temps. Si nous pourrions peut-être donner une comparaison, il est presque en train de... Il ne parle pas seulement d'un vent, de jardin, mais il est en train de parler des relations qu'il y a entre lui et la Sulamite. Il est en train de dire, lui réalise que la relation entre Salomon et la Sulamite sont froides, distants. Et il dit quelque part, combien il voudrait que ce vent se lève et que puisse venir au contraire un vent doux, agréable dans leur relation. Voilà ce qu'il est en train de vouloir exprimer. Soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que la bonne odeur, les bonnes qualités, les choses agréables de la Sulamite puissent être vécues dans une relation amoureuse. Mais, avez-vous remarqué comment, dans ce verset 16, Salomon marque aussi un peu plus sa position, parce qu'il va dire souffler sur mon jardin. Et on a bien compris que dans ce vocabulaire, dans ce jeu de mots, le jardin représentait cette intimité, à la fois l'intimité sentimentale, mais l'intimité également physique. Et c'est là que la Sulamite prend la parole, tout de suite. Celui qu'on appellera le verset 17 qui n'existe pas mais que l'on peut rajouter. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits. Excellent. Tout de suite, la Sulamite réagit. Parce qu'elle entend Salomon qui est en train de dire qu'elle est son jardin. Et elle, elle ne veut pas. Elle dit non. Je suis le jardin, mais je suis le jardin de mon bien-aimé. Elle réagit, elle prend position. La Sulamite refuse de tout son cœur d'appartenir à quelqu'un d'autre qu'à son bien-aimé. Elle refuse de s'offrir à Salomon. Et au contraire, elle réaffirme son appartenance à son bien-aimé qui est absent. Mais on arrive au verset 1er du chapitre 5. Voyez la réponse de Salomon. J'entre dans mon jardin. Comme si lui, il continuait. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Vas-y, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, Salomon a bien entendu la réponse de la jeune fille qui a dit « Entre dans mon jardin, mon bien-aimé, et qu'il mange, que lui, il mange ses fruits excellents. » Et Salomon, il va en fait essayer de la prendre à son propre jeu. C'est-à-dire qu'il va faire le naïf et il fait fi de pas comprendre qu'elle parle de son bien-aimé et quelque part il veut saisir l'occasion en se disant « mais elle me parle à moi ». Il saisit l'occasion et il prend à son compte les paroles de la Sulamite. Alors comme la Sulamite venait de dire « entre dans, sous-entendu, entre dans ton jardin et mange de tes fruits », alors lui dit « ok, alors je vais rentrer dans mon jardin. Ma sœur, ma fiancée, je vais cueillir la myrrhe, mes aromates. » Et regardez également la subtilité du langage. « Je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. » Et avant, il disait que ça se trouvait où le miel et le lait? C'était dans la bouche de la Sulamite. Est-ce que vous êtes en train là, de comprendre la démarche physique qu'il est en train de faire? Il est en train tout simplement de s'approcher de la Sulamite. Elle qui vient de dire « mais oui, mange, que mon bien-aimé mange de son jardin, qui mange de ses fruits. » Et lui, il prend ça pour lui-même, il dit « ok, mais je vais venir manger mon miel, je vais venir manger mon lait. » Et là, il est en train de s'approcher dangereusement. C'est pour ça que je vous disais que le texte est de plus en plus dangereux. Comment est-ce qu'elle va se sortir de la situation? Et là, la réponse de la Sulamite est extraordinaire. Parce qu'elle, elle va jouer le même rôle que Salomon. Salomon faisait style « Oh, parce que tu as dit, j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire, je sais pas que tu parlais du bien-aimé. » Eh bien, elle va répondre de la même manière. Regardez ce qu'elle répond. « Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. » En fait, la réponse de la Sulamite, ici, elle est incroyable, parce qu'elle est pleine de subtilité et d'intelligence. Tout comme le roi feignait de croire que les paroles de la Sulamite lui étaient adressées, et bien la Sulamite feint de comprendre que le roi parle réellement du miel et qu'il parle réellement du lait et qu'il parle réellement du vin du palais. Et il est en train de dire, elle dit « Ah mais tu parles de miel, tu parles de vin, tu parles de lait. » Mais oui, bah festoyons, réjouissons-nous, mangeons, allons-y, entamons le banquet. »
Elle est allée en chercher.
En fait, c'était déjà parce que on se rappelle, on est dans le cortège royal. Lui, il est en train de préparer la fête. Pour lui, c'est un jour de fiançailles. Donc, il y avait déjà des invités. Il y avait déjà. Et là, alors que lui, il était en train de parler sur un langage imaginé, qu'il allait commencer à l'embrasser, d'où sauter. Elle prend ça au pied de la lettre, faisant style « Ah, mais je te prends au mot. Mangeons, réjouissons-nous. Venez, les amis, commençons le banquet. » Et c'est ainsi que, au dernier sursaut, elle arrive à éviter le baiser, langoureux et très entreprenant. Et c'est là qu'il y a toute une subtilité, parce qu'à la fois, elle évite de tomber dans le piège de Salomon, mais à la fois, elle reste respectueuse, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il est le roi, et qu'elle, elle n'est qu'une bergère. Elle a été mariée de force parce qu'elle n'a rien à dire. Donc voilà que la réplique de la Sulamite se comprend également, et c'est pour ça qu'on disait que le cantique des cantiques, il faut à la fois le lire, mais comme se projeter les scènes également, parce que cette réponse de la Sulamite se comprend également avec un geste de sa main, par exemple, pour dire « Mais oui, venez, mangez, buvez !» comme pour attirer le regard sur une autre réalité imaginée que Salomon faisait, mais vers le banquet, vers les festivités qui entouraient ce jour de fiançailles. Quelques leçons à retenir, quelques leçons spirituelles pour nous. Effectivement, si la Sulamite est une image de l'Église et plus peut-être exactement une image du chrétien fidèle, alors je crois qu'il y a effectivement quelques descriptions de la Sulamite que nous pouvons prendre comme modèle dans notre vie. Quand il est parlé qu'elle a les yeux comme des colombes, et bien nous aussi, en Philippiens chapitre 4, verset 5, il nous est demandé que notre douceur soit connue de tous les hommes. Jésus le dira en Matthieu chapitre 10, verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Que nous aussi, que le caractère de la douceur de la Sulamite puisse se voir en nous. Quand il l'évoque, que sa bouche est charmante, bah nous aussi, que notre bouche soit charmante, non pas séduisante, on est d'accord, mais qu'elle soit charmante par les bonnes paroles qui en sortiront. Éphésiens chapitre 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Quand il est parlé de ce coup, bah nous aussi, nous avons une posture, une position à tenir, que nous soyons également pleins de fierté. D'ailleurs, c'est Jésus qui va le dire, dans un temps qui nous concerne, en Luc chapitre 21, verset 28, quand il parle de la fin des temps, qu'est-ce qu'il va dire? Quand toutes ces choses viendront, les signes annonciateurs du retour de Jésus, quand toutes ces choses arriveront, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Amen. Que nous aussi, notre coup soit debout. Non pas un coup de fierté et d'arrogance, mais de confiance dans notre Seigneur. Amen. Ne laissons pas les circonstances de ce monde faire plier notre coup. Nous appartenons à un Dieu qui est plus fort que tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Quand il est parlé des saints de la Sulamite, bah je crois que l'Église aussi devrait avoir une belle poitrine. Je ne parle pas encore là d'un atout de séduction, mais cette poitrine nourricière, cette poitrine qui nourrit les nouveau-nés. Où sont nos nouveau-nés? Où sont nos petits? L'Église devrait être une femme en travail, une femme qui accouche, une femme qui materne, une femme qui a le sein généreux et qui distille du lait. C'est la vocation de l'Église et nous devrions rechercher à avoir également ces saints nourriciers. « Que tu es belle, dit-il au verset 7, mon ami, il n'y a en toi point de défaut. » Oh, là, on peut dire, non, c'est pas pour nous. Là. Pourtant, c'est ce à quoi nous devons travailler. En Éphésiens chapitre 5, verset 27, Paul nous invite à régler notre conduite afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc oui, nous devons travailler à être sans péché, sans défaut, inaccapable, inattaquable, irrépréhensible. 1 Pierre chapitre 3 verset 4, où il nous est demandé de revêtir cette parure intérieure et cachée dans le cœur, cette pureté incorruptible d'un esprit doux, on retrouve, et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Bien sûr, nous serons toujours perfectible, mais nous devons rechercher à être sans défaut quand même. Le verset 12, où la Sulamite, dans toute cette série, est comparée à un jardin et à la fois à une fontaine, je crois que c'est également la place de l'Église. Nous sommes à la fois appelés à être un jardin et à la fois à être une fontaine. À la fois un jardin fermé et à la fois une fontaine. Une fontaine n'a pas de sens si elle reste scellée. C'était d'ailleurs le reproche que faisait Salomon à cette jeune fille. Une fontaine qui est fermée, une source qui est fermée, ça ne sert à rien. Mais nous, nous sommes appelés à être cette source d'eau vive pour les gens qui nous entourent. Nous sommes appelés à être cette fontaine. Nous sommes appelés à devoir communiquer ce rassasiement à ceux qui nous entourent. Si nous ne le faisons pas, où est-ce que le monde ira boire à l'eau vive? Pourtant, c'est bien ça. Non seulement nous sommes appelés à communiquer, mais j'ai même envie de dire que c'est notre... Nous devons veiller à toujours avoir ces fleuves d'eau vive. C'est en Jean chapitre 7, verset 38, que Jésus dira « Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son être intérieur et jailliront jusque dans la vie éternelle. » Veillons à ne pas être un jardin dans lequel il n'y aurait plus cette eau vive. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'eau dans ce jardin pour l'arroser, le jardin se transforme en désert. Et nous, ça peut être exactement la même chose le jour où nous n'avons plus cette vie, cette vigueur, ces fleuves d'eau vive, cette réalité de la vie spirituelle. Alors nous nous asséchons, nous nous desséchons. Et nous n'avons plus rien à offrir. Par contre, je crois que dans cette image du jardin fermé, il y a aussi une leçon pour nous. Parce que si nous devons être généreux, si nous devons être des hommes et des femmes qui communiquent quelque chose vers l'extérieur, nous devons rester quelque part un jardin fermé. Non pas replié sur nous, mais fermé à l'esprit du monde. Nous sommes appelés à communiquer la grâce de Dieu, mais nous devons rester ce jardin fermé, préservé de la mentalité du monde, préservé des calculs du monde, préservé de la mauvaiseté du monde, préservé des calculs du monde, préservé du sectarisme, de la méchanceté du monde, préservé de l'impureté du monde. Oui, nous sommes à la fois ce jardin fermé et nous devons être également cette source d'eau vive. Le verset 14 nous parlait de beaucoup de parfums, mais nous aussi nous devons porter du bon parfum. Le parfum du fruit de l'esprit, le parfum de la sainteté, le parfum de la vérité, le parfum de la justice. Et nous ne nous trompons pas, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute. C'est en 2e épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15, où il est écrit « Nous sommes en effet pour Dieu ». La bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. C'est vrai que si vous vivez dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture, dans la justice, vous serez apprécié de votre pasteur et des hommes et des femmes intègres de l'Église. Mais les gens du monde vous diront « Oh, toi tu pues !» Et tu t'as vu toi ? Mais tu vois comment tu marches ? Bien sûr. Notre sainteté est une odeur agréable à Dieu, mais pas au monde. Bien sûr que non. Mais ce que nous devons rechercher, c'est comme la Sulamite. Elle, tout ce qui l'intéressait, c'était qu'elle soit trouvée agréable auprès de son bien-aimé. Que mon bien-aimé me trouve à son odeur. Que mon bien-aimé me trouve à son goût. Que mon bien-aimé mange de mes fruits. Amen. Et on terminera avec... verset 1er du chapitre 1er où on voit là toute la de quelle manière le Salomon veut s'imposer dans la vie de la Sulamite. J'entre dans mon jardin, ma fiancée, je cueille ma myrrhe, je cueille mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Nous n'appartenons pas au diable. Amen. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Et le diable fera toujours en sorte de vouloir mettre le grappin sur nous. Il cherchera toujours à nous faire croire que notre vie, il a le droit d'avoir la main dessus. Il n'a pas le droit. Nous appartenons au Seigneur. Amen. Nos pensées, nos cœurs, nos mentalités, notre avenir, si nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous lui appartenons. Et rien ne pourra nous retirer de la main du Seigneur. Amen. Et faisons attention parce que le diable voudra toujours lui nous mettre la main sur nous et nous faire croire que nous lui appartenons, que nous sommes encore là. Non, c'est malhonnête. Mais c'est faux, c'est un mensonge. D'où la réaction de la Sulamite qui est très bonne. D'ailleurs, je terminerai juste sur cette pensée que Jésus a dit en Marc, chapitre 12, verset 7. Il a dit « Rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Oui, c'est vrai. Les chaises, le matériel, la chemise, notre voiture. Oui, tout ça, ça appartient au diable, il n'y a pas de problème. Ça appartient à César, ça appartient au monde. Mais notre cœur appartient au Seigneur. Amen. Notre âme appartient au Seigneur. Nos pensées appartiennent au Seigneur. Notre espérance appartient au Seigneur. Notre avenir appartient au Seigneur. Et tout ça, si le diable veut s'amuser avec nos biens matériels, qu'il le fasse. Qu'on lui laisse. On ne va pas se cramponner à ça. Mais rendons aussi à Dieu ce qui lui appartient. Notre être intérieur. Amen. Les choses invisibles et les choses éternelles. Amen.